Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : Que devons-nous faire ? Jean leur répondait : Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, des collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : Maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit : N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. À leur tour, des soldats lui demandaient : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit : Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous : Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations, et bien d'autres encore, Jean annoncer au peuple la bonne nouvelle.
Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Frères et sœurs, je pense que vous avez repéré cette question qui revient par trois fois dans l'Évangile. C'est une question importante puisqu'on la retrouve à diverses reprises aussi dans les Actes des Apôtres. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Cette question est très importante, donc vous la retrouvez donc ici à trois reprises. Alors il y a les foules, il y a les publicains, après il y a les soldats et qui viennent à Jean-Baptiste en disant « Que devons-nous faire ?» Dans les Actes des Apôtres, vous retrouvez cette question à diverses reprises, notamment le matin de la Pentecôte, quand Pierre parle aux foules, alors d'entendre tout ce qu'il leur dit, notamment que Jésus est mort parce que c'est l'homme qui l'a fait mourir et que Dieu l'a ressuscité. Alors les foules eurent le cœur transpercé et dirent : Que devons-nous faire ? Ou saint Paul, avant qu'il soit canonisable, lors de sa conversion, qui es-tu ? Et puis après, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Cette question est très importante parce qu'elle traduit cette disponibilité. Que dois-je faire ? Quand on est prêt à prononcer cette petite question, ça marque vraiment notre disponibilité. Alors peut-être que c'est notre question, ce temps de l'Avent, hein, comme c'est fou, le peuple était en attente. Voilà, alors que devons-nous faire ? Les réponses de Jean-Baptiste à cette question « Que devons-nous faire ?» sont finalement, n'ont rien de très extraordinaire en un sens. Il ne leur demande pas des choses qui dépassent leurs possibilités. Voilà, partager. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Aux autres, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé, donc la justice. Aux soldats, la douceur et la modération, ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. Donc en un sens, Jean-Baptiste ne demande pas des choses extraordinaires, mais ce qu'il demande, c'est intéressant de voir, finalement, c'est de faire attention à l'autre. Ne faites pas de l'égoïsme, on pourrait dire, le critère de votre action. Ne faites pas de votre « moi » votre seule raison de vivre. Et par là, Jean-Baptiste creuse dans ses interlocuteurs le désir de l'autre, de l'autre qui vient. Il nous ouvre, il les invite finalement à sortir d'eux-mêmes et en prêtant attention à ceux qui sont autour d'eux. Alors, donc ça peut être une bonne indication pour nous, pour ce temps de l'Avent. Si nous voulons accueillir Jésus, ben commençons par ouvrir les yeux sur ceux qui sont autour de nous. Que devons-nous faire? Il y a une réponse aussi qui vient à diverses reprises dans la liturgie, dans l'antienne d'ouverture, après dans la première lecture, dans la deuxième lecture. Il y a une réponse aussi à cette question qui nous est donnée par la parole de Dieu, qui nous est donnée par l'Église. Que devons-nous faire? Vous avez entendu, on l'a chanté même. Ben, soyez dans la joie. Alors, la première chose, donc, c'était d'ouvrir les yeux déjà sur ceux qui sont autour de nous. Mais soyez dans la joie. Que devons-nous faire pour nous préparer à la venue du Seigneur? Soyez dans la joie. Alors, ça apparaît comme un commandement. Alors, spontanément, on peut se dire, mais la joie, ben voilà, c'est pas moi qui la suscite, forcément. Je me chatouille pas pour commencer à rire, non. Et pourtant, si, ça dépend d'une démarche de notre volonté aussi d'être dans la joie. Ou l'inverse aussi, d'écarter la tristesse. Parce que la tristesse, c'est comme une plante vénéneuse. Mais quelquefois, on passe beaucoup de temps à cultiver cette plante vénéneuse qu'est la tristesse. Alors voilà, on se remémore des choses, ce qu'on nous a fait de mal, etc. Dans des regrets, dans des remords, dans le passé. Voilà. Mais ça, c'est passer son temps à cultiver des plantes vénéneuses. Quelqu'un qui ferait ça dans ce jardin, on dirait, mais ça va pas très bien, quoi. Qui cultive des plantes, au moins, qui peuvent le nourrir, tout ça, mais pas des plantes vénéneuses. Mais là, c'est ce que nous sommes en train de faire, hélas, trop souvent. Nous cultivons ces plantes vénéneuses justement parce que nous laissons la tristesse s'installer, une sorte de morosité. Alors, bien sûr que certaines fois, on peut avoir expérimenter cette tristesse, mais autre chose est de l'expérimenter à un certain moment, autre chose est de la cultiver. Et alors, les auteurs spirituels, unanimement, disent, mais arrêtez de cultiver ces plantes vénéneuses de la tristesse. Cultivez la joie, plutôt. Peut-être que je peux vous citer différents auteurs, je ne sais pas si j'ai besoin de vous convaincre, mais Jacques Fesch, qui n'était pas forcément un enfant de cœur, mais qui donc avait été condamné à mort, mais s'était converti en prison. Et alors il essayait d'entretenir en lui cette joie, et son avocat lui dit, mais attends, tu vas être guillotiné bientôt, donc c'est peut-être pas vraiment d'actualité. Et alors voilà ce qu'il dit. Petit frère, la joie est-elle indispensable? Ou doit-on la considérer comme une grâce fortifiante, mais un peu accessoire? Pour ma part, vois-tu, lorsque la joie me quitte, je me sens tout désemparé. C'est à ce moment-là que le vieil homme remonte en moi avec une force prodigieuse. Tout ce que je croyais loin derrière moi, je le retrouve devant moi avec la même virulence qu'avant, et sans même la moindre atténuation question gravité. Je dois lutter de toutes mes forces pour refouler ces mauvais désirs. À ces moments de dépression, je prie, plus peut-être que d'habitude, mais tellement mal. J'ai toujours alors l'impression d'être seul et que tout est vain. Si bien qu'au fond, toutes mes prières ne sont que demandes de force et de joie. Donc il y a un combat à deux niveaux, si vous voulez. Il y a un combat où on affronte le mal directement, pied à pied. Et puis il y a un combat où on prend un peu de hauteur, justement, parce que on essaie d'entretenir cette joie. Cet enseignement, Jacques Fesch l'avait expérimenté d'abord, mais l'avait puisé aussi chez Saint François d'Assise. Je vous cite Saint François d'Assise. « Les démons ne peuvent rien contre un serviteur du Christ qu'ils trouvent plein de sainte allégresse. Tandis qu'une âme chagrine, morose, déprimée, se laisse facilement submerger par la tristesse ou accaparée par de faux plaisirs. » Alors, le combat pour Saint François, c'est pas tellement de lutter contre le mal directement, c'est d'abord de lutter contre la tristesse. S'il persévère dans sa tristesse, alors grandira en lui le mal babylonien, recouvrant le cœur d'une rouille tenace. Voilà, alors ça c'est les paroles de saint François. S'il y a encore besoin de vous convaincre, vous vous rappelez, tous vous connaissez cet épisode aussi de la nuit de Noël de la petite Thérèse. C'est encore une question de choisir soit de mijoter dans sa tristesse, dans son dépit, et, soit de faire la joie de l'autre. Je ne vais pas le citer pour ne pas être trop long, mais vous vous rappelez, donc ils reviennent de la messe. Je vais pas prendre un petit peu. Bon, j'espère que c'est la dernière année qu'on ouvre les cadeaux, qu'on fait. Voilà. Et la petite Thérèse, piquée au vif, elle commence à monter, voilà, elle commence à avoir des larmes, tout ça. Et à un certain moment, elle dit non. Et du coup, à ce moment-là, elle redescend. Je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Voilà. Soyez dans la joie. Alors vous me direz, mais c'est pas non plus du volontarisme. Voilà, on appuie sur un bouton et puis on est dans la joie. Voilà. Oui et non. Non, parce que, voilà, Sainte Thérèse est bien placée pour le dire. En un instant doux, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit en se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Alors donc, c'est notre bonne volonté qui rejoint la grâce de Dieu. Heureusement, sans la grâce de Dieu. Et dans les textes, on voit bien que cette joie, c'est l'expérience d'être sauvé d'un salut. Alors, la joie, ce n'est pas le fait d'être naïf qui nous est proposé, non. Fermez-vous les yeux, il n'y a pas de mal, tout ça, non. Ce n'est pas du tout ça, on voit bien dans les... Ils ne disent pas, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'accusateur. Non, le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Ne crains pas, parce que le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Alors, cette joie, elle repose sur une attitude de foi. On pourrait dire que c'est aussi une question de regard. Où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde le mal qu'on m'a fait, tout ça, et puis je suis un petit peu hypnotisé par ce mal? Ou est-ce que je regarde Dieu qui vient me sauver? Alors, en ce temps de l'Avent, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ben, c'est peut-être changer notre regard au lieu d'être... passer notre temps, quelquefois, d'être sur ce qui va mal. Peut-être tourner notre regard vers le Seigneur qui vient nous sauver. Vous pourrez reprendre les textes de la liturgie. Constamment, c'est comme un refrain... On ne craint pas de se répéter ce dimanche. Hein. Dans le psaume, « Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance, plus de crainte pour moi, car le Seigneur est ma force et mon chant, je lui dois le salut. » Allez, rendez grâce. Ou alors saint Paul, « Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, faites connaître à Dieu vos demandes. » Cette joie, alors nous pouvons... Je récapitule et je vais conclure. Donc que devons-nous faire? Alors d'abord, saint Jean-Baptiste nous propose d'ouvrir les yeux sur ceux qui sont autour de nous pour être prêts à accueillir, à voir l'autre qui vient à ma rencontre. Et par le choix des lectures, l'Église nous invite à nous donne ce commandement. Que devons-nous faire? Ben, soit dans la joie. Et cette joie, on la puise dans la foi, justement, parce que Dieu vient nous sauver. Et on peut l'exprimer par des choses toutes simples, ça peut être simplement par le sourire. Saint François d'Assise, pour le citer une nouvelle fois, un jour il y avait un novice qui avait une mine triste, et il lui dit, non, tu peux, quand tu es tout seul, bon, peut-être, mais une fois que tu es devant les autres, non. Il remarqua un jour que l'un de ses compagnons avait l'air sombre et chagrin. Il le tança un peu rudement. Un serviteur de Dieu ne doit pas se présenter devant les hommes tristes et renfrognés, mais au contraire toujours aimable. Va dans ta chambre pour passer en revue tes péchés, pleure et gémis devant Dieu, mais de retour parmi tes frères, laisse là ta peine et fais comme les autres. Là, nous pouvons demander cette grâce, justement, de nous laisser gagner par cette joie. Cette joie qui est un don de Dieu, mais qui compte sur notre bonne volonté, où nous ne, nous complaisons pas dans ces plantes amères et vénéneuses que sont la tristesse, la morosité, le retour sur nous-mêmes.